Aristote, Rhétorique, livre 3, chapitre 11. Mettre les faits devant les yeux. 1. Il faut dire maintenant ce que nous entendons par un fait mis devant les yeux et ce qu'on fait pour qu'il en soit ainsi. 2. J'entends. Par mettre une chose devant les yeux, indiquer cette chose comme agissant. Par exemple, dire que l'homme de bien est un carré, c'est faire une métaphore, car les deux termes renferment une idée de perfection, mais ils n'indiquent pas une action. Au lieu que dans l'expression « ayant la force de l'âge pleinement florissante », il y a une idée d'action. Dans cet autre, mais toi, en qualité d'homme libéré, il te convient, il y a une action. Dans celle-ci, alors les Grecs s'étant élancés de là, il y a action et métaphore. C'est ainsi qu'Homère, en beaucoup d'endroits, anime des êtres inanimés au moyen de la métaphore. 3. En toute occasion, le fait de mettre en jeu une action produit une impression goûtée de l'auditeur. En voici des exemples. Et de nouveau, le rocher sans honte roulait dans la plaine. La flèche prit son vol, brûlant de s'envoler. Les traits restaient immobiles sur le sol, désireux de se repaître de chair. La lance traverse sa poitrine avec rage. En effet, dans tous ces passages d'Homère, les objets, par cela même qu'ils sont animés, apparaissent comme agissants. Les expressions « être sans honte »,« avec rage », etc. indiquent une action. Le poète les a placées au moyen de la métaphore par analogie. Et le rapport du rocher à Sisyphe est celui de l'être sans honte à celui sur qui l'on agit sans honte. 4. Il en fait autant dans des images d'un heureux effet avec les êtres inanimés. Les vagues se soulèvent en courbes blanchissantes, les unes s'avancent et d'autres arrivent par-dessus. On le voit, il donne à toute chose le mouvement et la vie. Or, l'action est ici une imitation. 5. Il faut, quand on emploie la métaphore, comme on l'a dit précédemment, la tirer d'objets propres au sujet, mais non pas trop évidents. En philosophie, par exemple, tu dois viser à considérer le semblable dans tels objets qui ont entre eux une grande différence. C'est ainsi qu'Archytas a dit « Un arbitre et un autel sont la même chose, car vers l'un comme vers l'autre se réfugie l'homme qui a subi une injustice. » Ou, comme si l'on disait qu'une encre est la même chose qu'une crémaillère, car toutes deux font une même chose, seulement elles diffèrent en ce que l'une la fait par en haut et l'autre par en bas. Ou encore, les deux villes ont été mises au même niveau. Un trait commun à deux choses très différentes, la surface et les ressources, c'est l'égalité. 6. La plupart des propos piquants dus à la métaphore se tirent aussi de l'illusion où l'on jette l'auditeur. En effet, on est plus frappé d'apprendre une chose d'une façon contraire à celle que l'on attendait, et l'âme semble se dire « Comme c'est vrai, c'est moi qui étais dans l'erreur. » Les apophthegmes sont piquants lorsqu'ils ne disent pas expressément ce qu'ils veulent dire. Tel par exemple celui-ci de Stésichore. Leurs cigales chanteront de parterre. Les énigmes bien tournées sont agréables par la même raison, car on y apprend quelque chose, et il s'y trouve une métaphore. Une chose agréable aussi, c'est ce que prescrit Théodore, user d'expressions nouvelles. Or, c'est ce qui arrive lorsque l'application d'un mot est inattendue, et non pas, comme il le dit, conforme à l'opinion antérieure. Mais, comme font ceux qui, dans leur plaisanterie, emploient des expressions défigurées. Le même effet est produit dans les jeux de mots, car il y a surprise, et cela même en poésie. Le mot qui vient n'est pas celui que l'auditeur avait dans l'esprit. Il marchait, ayant aux pieds des engelures. On croyait que le poète allait dire des souliers. Seulement, il faut que, aussitôt le mot énoncé, le sens soit bien clair. Quant au jeu de mots, il fait que l'on dit non pas ce que l'on paraît vouloir dire, mais un mot qui transforme le sens. Tel le propos de Théodore, s'adressant à Nicon le Cytharède. On s'attend à ce qu'il va dire, il te trouble. Et il y a surprise, car il dit autre chose. Le mot est joli pour celui qui le comprend. Attendu que, si l'on ne soupçonne pas que Nicon est trace, ce mot ne paraîtra plus avoir de sel. Tel encore, cet autre jeu de mots. Veux-tu le perdre ? 7. Il faut que les deux applications du mot sur lequel on joue offrent un sens convenable. C'est alors seulement qu'elles sont piquantes. Comme par exemple de dire « L'empire de la mer n'est pas pour les Athéniens une source de malheur, car ils en profitent. » Ou comme Isocrate « L'empire de la mer est pour les Athéniens une source de malheur. » Dans les deux expressions, on a dit une chose que l'auditeur ne présumait pas qu'on allait dire et qu'il a reconnue pour vraie. Et en effet, dire que l'empire est un empire ne serait pas fort habile. Mais il ne parle pas de cette façon. Et le mot « empire » ne garde pas sa première signification, en reçoit une autre. 8. Dans tous les cas analogues, si le mot est amené convenablement par l'homonymie ou par la métaphore, alors tout va bien. Exemple. Anasketos n'est pas supportable. Cette phrase renferme une homonymie, mais elle est convenable si l'individu est désagréable. Autre exemple. Tu ne serais pas un hôte plutôt que tu ne dois être un étranger. Ou bien, pas plus que tu ne dois l'être, car le mot garde le même sens. Et dans « il ne faut pas que l'hôte soit indéfiniment un étranger », le mot « hôte » est pris successivement dans un sens différent. Même remarque sur ce vers célèbre d'Anaxandride. Il est certes beau de mourir avant d'avoir été digne de la mort. C'est la même chose que si l'on disait « Il est beau de mourir, bien que l'on ne soit pas digne de la mort » ou « Il est beau de mourir quand on n'est pas digne de la mort » ou « Quand on ne fait pas des actions dignes de la mort ». 9. Ici, c'est la forme de l'expression qui est la même. Plus l'expression est laconique, plus elle accentue l'antithèse, mieux elle vaut. La raison en est que l'antithèse la fait mieux comprendre et que l'on comprend plus vite ce qui est exprimé brièvement. 11. Il faut toujours que l'expression se rapporte à la personne qui en est l'objet, qu'elle soit correctement appliquée si l'on veut frapper juste, et qu'elle ne soit pas vulgaire, car ces conditions ne vont pas séparément. Exemple. Il faut mourir sans avoir commis aucune faute. Cet exemple n'a rien de piquant. Il faut qu'une femme digne épouse un homme qui soit digne. Celui-ci aussi manque de sel. c'est autre chose si les deux termes marchent ensemble. Il est certes digne de mourir sans être digne de mourir. Plus il y a de mots dans l'antithèse, plus la phrase a de relief. C'est ce qui arrive, par exemple, si les mots renferment une métaphore. Et telle métaphore, une antithèse, une symétrie, et s'ils comportent une action. 11. Les images aussi, comme on l'a dit plus haut, sont toujours à certains égards des métaphores appréciées, car elles se tirent toujours de deux termes, comme la métaphore par analogie. Nous disons par exemple, le bouclier est la coupe de Mars. Un arc est une lyre sans corde. En s'exprimant ainsi, l'on n'emploie pas une métaphore simple. Mais si l'on dit que l'arc est une lyre ou que le bouclier est une coupe, la métaphore est simple. 12. On fait aussi des images de cette manière-ci. Par exemple, un joueur de flûte est assimilé à un singe. L'œil du myope l'est à une lampe dont la mèche est mouillée. En effet, tous deux se contractent. 13. Les images sont heureuses lorsqu'elles renferment une métaphore, car on peut, par assimilation, appeler le bouclier coupe de Mars, les ruines haillons d'une maison, Nicérate, un phyloctète mordu par Pratis, assimilation faite par Trasimaque, voyant Nicérate vaincu par Pratis dans un concours de rhapsodie, et qui avait, lui aussi, les cheveux longs et une tenue misérable. C'est surtout dans ces figures que les poètes échouent s'ils ne les rendent pas bien, fussent-ils appréciés d'ailleurs. J'entends par là s'ils les rendent ainsi. Ils portent des jambes torses comme des branches de persil. Comme Philamon lorsqu'il se bat avec le ballon de gymnastique. Tous les exemples analogues sont des images. Or, les images sont des métaphores, nous l'avons dit souvent. 14. Les proverbes aussi sont des métaphores par lesquelles on passe d'une espèce à une autre espèce. Ainsi, que l'on introduise chez soi une chose avec la conviction qu'elle sera bonne, puis qu'elle tourne en dommage. C'est comme le lièvre pour le Carpathien, dira-t-on. En effet, tous deux ont éprouvé ce qu'on vient de dire. Par quels moyens on peut tenir des propos piquants et à quelle cause ils se rattachent, c'est expliqué à peu près complètement. 15. Les hyperboles de bon goût sont aussi des métaphores. Par exemple, on dira d'un homme au visage balafré, vous croiriez voir un panier de mûres. En effet, les meurtrissures sont rouges. Mais le plus souvent, c'est abusif. L'allocution « comme ceci et cela » est une hyperbole qui ne diffère que par l'expression. Dans l'exemple, comme Philamon se battant avec le ballon de gymnastique, vous croiriez que Philamon combat un ballon. Dans celui-ci, il porte des jambes torses comme des jambes de persil. On croirait qu'il a non pas des jambes, mais des branches de persil torse. 16. Les hyperboles ont quelque chose de juvénile, car elles marquent de la véhémence. C'est pourquoi elles viennent souvent à la bouche des gens en colère. Non. Quand il me donnerait autant de présents que de grains de sable ou de poussière, je n'épouserais pas la fille d'Agamemnon, fils d'Atrée. Non, quand même elle rivaliserait en beauté avec Aphrodite aux cheveux d'or et en talent avec Athénée. Les hyperboles sont principalement en usage chez les orateurs athéniens. Pour la raison donnée plus haut, elles ne conviennent pas dans la bouche d'un vieillard.